êtes sur le point de suivre Lève-toi et brille, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, sise à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny. Diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229-61-44-44-44.
Le roi de tous les rois, le Seigneur des seigneurs, c'est le Dieu qui guérit, le premier.
Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h, nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu, la meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Nous vous souhaitons une joyeuse Pentecôte. Pas seulement une fête de Pentecôte, mais aussi une Pentecôte en esprit et en vérité. La Pentecôte est une occasion, un moment fondateur de l'Église. À la Pâque, Jésus a accompli ce qui est nécessaire pour que l'Église puisse exister. À la Pâque, Jésus a vaincu la mort, la malédiction et a donné la vie. Mais cette vie-là ne vient en chaque chrétien qu'à l'occasion de la
Pentecôte.
Avant la Pentecôte, il n'y avait pas d'église. L'Église est née à la Pentecôte. L'Église est née avec le Saint-Esprit. Avant cela, le Seigneur lui avait dit d'aller à Jérusalem et d'attendre qu'il envoie le Saint-Esprit.
Il
a dit qu'il irait au Père et qu'il lui enverrait une puissance qui serait nécessaire pour pouvoir témoigner de lui à Jérusalem et dans le monde. Cela veut dire qu'il n'est pas possible d'aller accomplir la vie chrétienne ou d'aller témoigner de Jésus si on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Tu ne peux même pas vivre la vie de Jésus-Christ, tu ne peux pas être chrétien sans avoir reçu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas même naître de nouveau sans le Saint-Esprit. Parce que ce qui est né de l'homme est homme. Si c'est un homme, si c'est moi qui te fais naître de nouveau, tu ne peux jamais être naître de nouveau, tu seras un ancien homme. Une poule ne peut donner naissance qu'à des poussins qui sont amenés à devenir des poules. Et quel que soit l'entraînement que vous donnez au poussin, il restera un poussin quand il grandira. Il ne peut jamais voler comme un aigle parce qu'on l'a entraîné ou parce qu'on lui a parlé. La seule manière que l'animal ait la vie d'un aigle, vole comme un aigle, c'est d'être né d'un aigle.
Bonjour, quand l'idée, n'a pas de gangan. Alors, quand l'idée, n'a pas de gangan.
La seule manière de naître de nouveau, c'est de naître de l'Esprit de Dieu, parce que c'est en tant qu'Esprit qu'on est de nouveau.
Et
la parole de Dieu nous dit que personne ne peut confesser que Jésus est Seigneur si le Saint-Esprit ne l'en convainc pas. Donc si tu es vraiment né de nouveau, si tu as vraiment compris l'œuvre de la croix, si tu as vraiment confessé Jésus, c'est forcément que le Saint-Esprit est venu en toi. Si le Saint-Esprit n'est pas venu en toi, tu ne peux même pas comprendre jusqu'à naître de nouveau. Bien entendu, il y a dans le poulet de l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de poussins, il y a beaucoup d'aiglons. C'est-à-dire que tous ceux qui sont à l'église ne sont pas des chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Quand les poussins et les aiglons sont petits, ça se ressemble. Ça se ressemble. Mais en grandissant, on voit clairement que quelqu'un est un aigle et l'autre n'est qu'une poule. La différence est déjà dans leur naissance. Je découvre tous les jours que beaucoup de chrétiens ne sont jamais nés de nouveau mais viennent à l'église. Et j'ai rencontré beaucoup de pasteurs qui m'ont confessé n'être en fait jamais né de nouveau parce qu'ils n'ont jamais même compris ce qu'est la nouvelle création. Si c'est le cas pour les pasteurs, je laisse tomber beaucoup d'autres religieux qui ne sont même pas proches de naître de nouveau.
Et
c'est pour ça qu'il est normal que les gens viennent à l'église parfois, mais ne voient pas dans leur vie se manifester ce que la parole décrit comme étant la vie de l'église. La force, l'amour, la puissance que la Bible décrit pour l'église devrait être dans toute église parce que Dieu n'a pas changé. La communion des frères qui était évidente avec les anciens chrétiens devrait être aujourd'hui. La force et le zèle qu'ils avaient devraient être le nôtre aujourd'hui. La communion avec le Saint-Esprit qu'ils avaient devait être le nôtre aujourd'hui. Le zèle qu'ils avaient pour la prière devrait être notre aujourd'hui. Les révélations, les visions qu'ils avaient devaient être notre aujourd'hui. L'onction qu'ils avaient ne pouvait pas rencontrer la mort sans qu'elle ne dégage, qu'elle pouvait prier, faire des miracles, devait être notre aujourd'hui. Mais si nous sommes chrétiens comme eux, et si Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pourquoi beaucoup d'églises aujourd'hui, pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne ressemblent en rien à ce que la Bible dit qu'un chrétien est? Mais parce qu'ils ne sont jamais nés de nouveau. Beaucoup de gens sont comme des poules qu'on est en train d'entraîner, on est en train de leur parler pour qu'ils deviennent des aigles. Rien ne peut transformer une poule en aigle. Il faut être né aigle. Il faut qu'on tue la poule et que l'animal renaisse aigle. Beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens sans avoir jamais réalisé et accepté qu'il fallait d'abord mourir. Ils
ne
veulent pas mourir à leur volonté. Ils veulent faire comme ils veulent. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont pas compris qu'être chrétien, c'est être l'esclave, c'est être la marionnette de l'Esprit de Christ. Ils vous diront qu'il ne faut pas prendre la Bible au premier degré. Que les temps ont changé. Et qu'on peut faire comme on veut. Mais ce n'est pas des chrétiens. Soyez ce que vous voulez, mais ne dites pas que vous êtes chrétien si vous n'êtes pas esclave de l'Esprit de Christ.
Mais
si vous êtes un vrai chrétien, vous aurez la vie du chrétien. Si vous êtes vraiment engendré par le Saint-Esprit, lui vous engendre toujours par une semence incorruptible. Je ne peux pas prendre un œuf d'aigle. Ça va éclore et donner un animal qui ne sera pas un aigle. Quand l'aigle naît, il ne fait pas des efforts pour grandir. Quand il mange, il va grandir. Il ne va pas faire des musculatures pour que ses ailes grandissent. C'est déjà dans ses gènes que ses ailes soient grandes. Il ne fait pas d'entraînement pour voler. C'est déjà dans ses gènes que de voler. On ne l'entraîne pas à aller au-dessus des montagnes. C'est déjà dans ses gènes que d'aller au-dessus de toutes les montagnes. On ne va pas chez l'ophtalmologue pour lui donner une vision. Il a déjà une vision terrible à des kilomètres près. Si tu es né d'un aigle, tu manifesteras en temps opportun toute la vie de l'aigle. Si tu es né d'un homme, tu manifesteras sans aucun la vie de l'homme. Si on met un noyau de mangue en terre, on n'a pas besoin de faire des efforts. Ça devient manguier, ça grandit, ça donne des fleurs, ça donne des fruits. Si c'est une petite mangue, ça ne donnera que des petites mangues. Ça ne donnera pas de mec greffé. Mais si c'est le noyau d'une grande mangue, ça ne donnera qu'une grande mangue. Ça ne donnera pas de petite mangue. Parce que Dieu dit dans la Genèse que chaque espèce doit se reproduire selon son espèce. C'est la manière dont vous naissez en Jésus qui va déterminer qu'est-ce que vous pouvez devenir en Jésus. Comment vous allez parler, comment vous allez marcher dans la vie, quelle sera votre puissance, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, qu'est-ce que vous allez aimer et qu'est-ce que vous n'allez pas aimer, quelle force vous aurez. C'est dans la nature de ce que vous engendrez. Si vous êtes engendré par une semence du Saint-Esprit, vous ne pouvez que grandir en vivant la vie du Saint-Esprit. Si vous êtes engendré par du bavardage, mon frère, comme tu as peur de mourir, il faut dire que tu aimes Jésus, et tu dis que tu aimes Jésus, tu vas avoir une vie de quelqu'un qui n'est jamais nouveau. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église parce qu'ils sont en train de fuir le monde. Comme ils ont peur des sorciers, comme ils veulent que le mari revienne, comme ils ont des problèmes, ils ont couru à l'église. Ce n'est pas grave. Jésus a dit que vous tous qui êtes accablés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc c'est bon d'arriver comme ça. Mais le problème c'est que, vous allez voir dans Luc 9, quand ils ont demandé à Jésus, ou plutôt Jésus leur a demandé, qui est-il? Chacun a dit ce que les autres disent. Elle a dit, mais vous, mes disciples, qui croyez-vous que je suis? Ils ont dit, tu es le Messie. Tu es le Sauveur. Jésus dit, c'est vrai. Mais tu ne le sais pas de toi-même. C'est parce que le Saint-Esprit te l'a dit. Personne ne peut croire que Jésus est Seigneur Sauveur si le Saint-Esprit ne lui a pas parlé. Mais ce n'est pas fini. Jésus leur dit, je vous ordonne, je vous mets en garde. N'allez jamais dire à quelqu'un que je suis le Messie, que je suis le Sauveur. Pourquoi? Attendez d'abord que j'aille à la croix. Il faut d'abord que le Fils de l'homme meure, qu'il soit élevé sur la croix et qu'il se ressuscite. Et il a dit dans le même passage, si quelqu'un ne prend pas sa croix, il ne peut pas me suivre. Si la graine tombe en terre et ne meurt, elle ne peut pas porter de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus disait là, à vous les chrétiens, à vous qui évangélisez, je vous interdis d'aller dire à quelqu'un que je peux le sauver sans lui dire d'abord qu'il doit passer à la croix, qu'il doit d'abord mourir, qu'il doit renoncer à son moi, qu'il doit prendre sa croix, qu'il doit tomber en terre et mourir. S'il ne renonce pas à son moi, à sa personnalité, à ses envies, à ses projets, s'il ne devient pas une marionnette de ma parole, s'il ne devient pas un instinct de mon esprit, ne lui dis pas que je vais le sauver, ne lui dis pas que je suis le Messie. Ça ne le concerne pas. On évangélise trop de gens sans leur dire la vérité. Ce que Jésus créait, parce que pendant longtemps, je demandais au Seigneur, mais pourquoi tu leur as interdit de dire que tu es le Messie? Alors que c'est ça que tu nous as envoyé dire. Il m'a dit, regarde le moment où je l'ai dit. Je n'étais pas encore parti à la croix. Et je leur ai dit, je ne dis à personne que je vais le sauver, que je vais le guérir, que je vais le bénir, qu'il va être heureux, avant de lui avoir dit qu'il va passer à la croix avec moi, avant de lui avoir dit qu'il doit renoncer à lui-même. Pour remplir les églises aujourd'hui, on a peur de dire aux gens qu'il faut aller à la croix. On a peur de dire aux gens qu'ils seront persécutés. On a peur de leur dire qu'ils auront des tribulations. Quitte à leur dire qu'ils sont quand même plus que vainqueurs. Ils ne combattent pas pour la victoire. Ils combattent dans la victoire. Ils auront des tribulations. Mais Jésus a déjà vaincu le monde. On les attaquera, mais on ne les vaincra pas. Si on les attaque par un chemin, on fera par cette chemin. S'ils sont dans le feu, ils ne seront pas brûlés. Sur les eaux, ils ne seront pas submergés. Dans la fosse au lion, le lion ne pourra pas les manger. Ça, c'est la garantie. Ils ne combattent pas pour la victoire. Ils combattent dans la victoire. Mais ils auront des tribulations. Il faut leur dire ça. Que être chrétien, c'est suivre Jésus dans la mort. C'est amener la chair pour être crucifié. Parce que règne l'esprit. La vie puissante ne vient pas d'un corps puissant. La vie puissante des évangiles vient d'un corps qui est mort. Mais ils ont chicoté les pierres. Ils ont chicoté les pôles. Mais plus de trouver la chair, plus le feu était fort. C'est le contraire de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève voulaient faire plaisir à eux-mêmes. Satan a dit, regardez, c'est beau, non? Ça semble doux, non? Quand ils ont eu envie de nourrir la chair, ils sont morts. Et que leur esprit est mort. Or, la puissance de la vie vient de l'esprit de Dieu. Si tu veux trop faire plaisir à la chair, l'esprit meurt. Et Satan conduit ta chair pour en faire n'importe quoi. Donc, Adam a vu son esprit mourir pour que sa chair règne. Et c'est parce que son chair a régné qu'il a eu tant de problèmes. Jésus est venu tuer cette chair qui a créé tant de problèmes afin qu'à nouveau l'esprit prenne le dessus. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est chrétien et lui promettre d'être béni en ayant peur de dire que la chair doit mourir. C'est pour ça que l'église est pleine de peureux, pleine de lâches, pleine de fainéants qui se comportent comme des spectateurs. Ils n'obéissent à rien. Ils ne sont soumis à rien. Ils font comme s'ils étaient libres. Nous sommes prisonniers de Jésus. C'est parce que tu es prisonnier de Jésus que tu es libre du monde. Tu ne peux pas être libre du monde et de Jésus à la fois. Si tu es libre de Jésus, tu seras prisonnier du monde. Mais si tu es prisonnier de Jésus, tu seras libre du monde. C'est pour ça que Jésus dit, mon fardeau est lourd et léger. Dans tous les cas, tu vas porter un fardeau. Ce sera celui de Satan ou celui de Jésus. Jésus nous a rachetés. Il ne nous a pas libérés. Ça veut dire quoi racheter? Il a payé le prix. Tu étais un mouton de Satan. Et Satan te maltraitait. Jésus vient avec son sang. Il dit, j'achète ce mouton là. Désormais c'est mon mouton. Quand on achète un mouton, le mouton devient mon mouton. Ce n'est plus Satan qui va te maltraiter. Ce n'est plus Satan qui va te gouverner. C'est Jésus qui te gouverne. Mais lui te gouverne pour le bonheur, pour la vie abondante, pour la joie, pour l'éternité. Tu ne peux pas être chrétien sans appartenir à Christ. Et c'est à la Pentecôte que nous sommes devenus chrétiens parce que l'Esprit de Dieu est venu nous en rendre capables. Mais regardez dans combien d'églises on ne parle jamais du Saint-Esprit. On ne peut pas être des chrétiens et ignorer le Saint-Esprit. Le chef de l'église, c'est Christ, c'est l'église, c'est l'esprit de Christ. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir même quelque chose qui ressemble à une église. Le Saint-Esprit est le premier indicateur qu'il y a une église. Et l'église, c'est l'assemblée de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Christ. L'église doit se réveiller. C'est-à-dire qu'elle doit retourner à la base pour renaître de nouveau. Vous allez voir que dans les Actes des Apôtres, à un moment, Jésus a rencontré certains disciples de Jean-Baptiste. Et il leur a dit, mais vous êtes baptisés? Ils ont dit oui. Il dit, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Ils disent, on ne sait même pas ce que ça existe. Il dit, mais si vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit, vous n'êtes pas des chrétiens. Et à ce moment, Paul leur explique ce dont il s'agit. Et après leur avoir expliqué ce dont il s'agit, ils sont nés maintenant de nous, ils ont reconfessé Jésus-Christ. Et Paul les a baptisés. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Mais moi, je connais des pasteurs qui ont dit qu'à l'école biblique, on leur a appris que le Saint-Esprit n'existait plus. Vous allez voir ça dans Actes 19, du verset 1 au verset 10. On va pas le lire maintenant pour gagner du temps. Actes 19, de 1 à 10, vous allez voir comment des disciples de Jean-Baptiste, déjà baptisés, et qui quand même suivaient Jésus, suivaient Dieu, Paul leur a dit qu'ils ne sont même pas des chrétiens. Et il leur a réexpliqué. Je crois qu'aujourd'hui, l'église a besoin de Paul qui fasse renaître les gens de nouveau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui traînent à l'église. Ils sont appelés, mais ils n'ont pas encore été élus. Ils n'ont jamais reçu la vraie parole pour naître de nouveau. Le Saint-Esprit est venu pour que des gens qui ne pouvaient pas, malgré toute leur volonté, devenir chrétiens, le deviennent enfin. C'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça que nous devons faire. Je rends grâce à Dieu parce que, sans que nous l'ayons planifié, cette fête de la Pentecôte correspond au début d'une nouvelle période d'enseignement pour nous. Nous avons décidé, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que les 3 mois qui viennent seraient des mois dans lesquels nous allons enseigner, travailler sur la consécration, l'engagement au service de Dieu. Et nous avions dit l'engagement au service de Dieu par le Saint-Esprit et par la prière. Et je découvre que cette période d'enseignement va commencer avec la Pentecôte. Mais parce que personne ne peut marcher comme Dieu le dit, ne peut s'engager au service de Dieu sans que le Saint-Esprit ne soit venu. C'est pour ça que vendredi à Parakou, hier ici, nous avons baptisé plein de personnes d'eau et d'esprit. Si quelqu'un parmi vous n'est pas encore baptisé d'eau et d'esprit, il est urgent qu'il le fasse. Parce que personne ne peut vivre la vie de l'esprit s'il n'est pas né d'eau et d'esprit.
Et
Et quand tu as reçu vraiment le Saint-Esprit, tu peux le faire immédiatement. Parfois, tu peux le faire après quelques jours, quelques semaines. Mais dans tous les cas, tu es censé parler un jour comme l'Esprit. Parler le langage de l'Esprit, parler en langue. Même à la maternelle, on apprend aux enfants qu'un animal se reconnaît par sa manière de se déplacer et par sa manière de parler. Le poisson nage, les oiseaux volent, les hommes marchent, le cheval galope. La manière dont tu vois un animal passer comme un lièvre, tu ne peux pas dire que c'est une tortue qui vient de passer. Parce que chaque animal a une manière de se déplacer.
Donc,
la manière dont vous marchez révèle qui vous êtes. Si vous marchez en pécheur, c'est que vous êtes encore un homme non né de nouveau. Tout homme pêche, nous sommes tous pécheurs privés de la gloire de Dieu. Mais je ne parle pas ici du fait de commettre de temps en temps des péchés. Je parle du fait de baigner dans le péché, d'avoir une vie de péché et de ne même pas trouver en quoi le péché est péché. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, le péché c'est dans ta nature. Tu produis le péché comme le manguier produit des mangues. On ne peut rien faire pour que tu produises des oranges. Et donc quand tu pêches, ta conscience ne te dérange même pas. Tu peux avoir 10 copines, tu t'en vantes encore auprès de tes amis. Donc tu es fier de pécher, tu n'es pas né de nouveau.
C'est
ta nature que de pécher, tu ne trouves rien d'anormal à ça. Nous ne sommes tous passés par là. Mais dès que tu nais de nouveau, le Saint-Esprit est en toi. L'une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il te convainc de pécher. Et le péché n'est plus ta nature. Ta nature, c'est de vouloir plaire à Dieu. Et dès que tu pèches, ta conscience te persécute. Toi-même, tu es troublé. Tu regrettes. Tu as envie d'en sortir. Quand tu es né de nouveau, la sanctification est ta nature et le péché est l'exception. C'est l'un des signes qu'on peut utiliser pour voir la manière dont tu marches en sanctification ou en péché. Définis ou révèle quelle est ta nature réelle. De la même manière, ta manière de communiquer révèle qui tu es. On va dire que le lion rugit. Que le chien aboie. Que le chat fait miaou. Que le bœuf fait bœuf. Non, on apprend aux enfants que chaque animal a une manière différente de se faire entendre. De même, l'homme parle en intelligence, l'esprit parle en langue. Tu ne peux pas passer de la vie d'un homme à la vie d'un esprit et continuer de parler comme l'homme ne jamais parler comme l'esprit. Quand tu prends un bébé, il y en a qui déjà à 6 mois parlent ou disent les premiers mots. Il y en a, c'est à 2 ans, ils commencent à parler. C'est pas grave. Mais si tu es un homme, tu dois parler. Si tu ne parles pas, on va se demander si toi tu es un homme normal.
Oh, Et
il est normal que quand tu commences à parler, tu ne parles pas très clairement, tu ne parles pas beaucoup, mais plus tu vas grandir, plus tu vas parler clairement, plus tu vas parler beaucoup. Pareil en langue. Donc, on ne peut pas me dire qu'on croit au Saint-Esprit, mais qu'on ne croit pas que l'Esprit en nous a un langage. Ça ne veut rien dire. Si l'Esprit est en toi, il doit pouvoir parler en toi. Et là, nous avons le parler en langue. Si ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi, mais Christ en moi doit parler. En dehors de ce que moi je dis, le parler en langue, c'est lorsque Christ utilise ma langue, puisque je suis maintenant son esclave, pour parler. Il se parle à lui-même, il parle au diable, il parle à la création. Et c'est d'une efficacité maximum. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est la langue qui commande. Quand Dieu appelle quelque chose à l'existence, c'est comme si la chose était immédiatement. Donc, notre langue est l'âme la plus puissante que nous avons. Parce que pour Dieu lui-même, tout a été fait par la parole et rien n'a été fait sans la parole. Donc si tu utilises bien la parole, tu commandes la vie et la mort. Mais pour bien utiliser la parole, il faut savoir quoi dire. Mais nous ne savons pas quoi dire. Nous ne savons pas ce qui se passe. Nous ne pouvons pas bien utiliser notre parole. Même si nous avons le pouvoir de la parole, nous ne savons pas quoi dire. Nous ne savons pas quoi prier. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient nous aider. Il prend notre langue, qui est à notre autorité, et comme lui sait tout, que lui peut tout, il utilise notre langue pour commander pour notre compte, à notre vie, à la création, à sa temps, autant aux circonstances. Donc, l'une des meilleures preuves que ce n'est pas toi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en toi, c'est que dans certaines circonstances, ce ne sera pas toi qui parlera, mais c'est Christ qui parlera en toi. Mais regardez comment l'Église méprise de parler en langue. Comme si on me disait qu'il était normal qu'un bœuf parle comme un mouton. C'est pas normal. Pourquoi on peut dire qu'on est né de nouveau, qu'on a le Saint-Esprit, et dire que le parler à la langue n'est pas normal? Le Saint-Esprit parle avec efficacité, avec précision. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. Pour que personne ne se vante. Donc la grâce fait que parfois, parce que Dieu dit que nous sommes sauvés dans le calme et dans le repos, dans la tranquillité. Mais le parler en langue, c'est que toi tu ne fais rien. Tu es tranquille. Et le Saint-Esprit utilise ta bouche. Tu es dans le repos. Le Saint-Esprit règle les comptes du monde. Mais c'est ça la nouvelle création. C'est ça le chrétien. Mais les chrétiens ne savent même pas ça. Nous devrions avoir honte. Et moi j'ai honte. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, on ne connaît même pas ce que ça veut dire être chrétien. Conclusion, nous engendrons des enfants mal formés parce que nous sommes mal formés. L'Église grandit aujourd'hui en étant engendrée par des gens qui ne sont pas chrétiens. Conclusion, l'Église est remplie de païens conduits par Satan, mais qui sont avec les chrétiens. Conclusion, c'est dans l'Église qui a les plus grands péchés. Conclusion, le monde a honte et dit que l'Église est une église de bandits qui peut faire ça à sa maison. Mais l'église, ce n'est pas le bâtiment où on prie. L'église, c'est la communauté de ceux qui sont vraiment soumis à l'esprit de Christ. C'est pour ça, comme l'on a vu dans 1 Corinthiens 5 la dernière fois, Paul insiste pour dire que si quelqu'un doit s'appeler chrétien et se comporter comme un païen, il faut l'exclure. Il ne doit pas rester à l'église pour venir créer le désordre et que des gens disent que dans l'église, il y a le diable, qu'il ne veut plus aller à l'église. Nous devons en profiter. Pour être vraiment enfin des chrétiens conduits par l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un n'a pas encore confessé Jésus, on va le refaire tout à l'heure. Si quelqu'un n'a pas encore renoncé à faire comme il veut et à ne faire que ce que la parole dit, il n'est pas chrétien, il doit le devenir ou arrêter de venir ici. Je n'ai pas besoin de foule devant moi. Je n'ai pas envie de dire que j'ai beaucoup de fidèles. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis candidat à rien. Dieu m'a appelé pour faire naître des gens de nouveau. Et s'ils sont nés nouveaux, pour les nourrir jusqu'à ce qu'ils grandissent. Sachant que s'ils sont vraiment nés du Saint-Esprit, ils porteront les fruits du Saint-Esprit. Ils vont être bénis, et ils vont être tous de bénédiction. Quand ils agiront, on verra Christ en eux. Point final. Donc si quelqu'un ne veut pas faire le premier pas, qui est de mourir au monde, et qui a de comprendre que tout ce qu'on décide parfois même est mauvais, si ce n'est pas suivi par Dieu, il n'a rien à foutre ici. Il faut que ce soit clair. Le réveil, ce n'est pas de remplir les églises de personnes. C'est d'accroître le nombre de personnes qui arrêtent de vivre selon le monde et qui sont conduites par l'Esprit de Christ. Et si tu es vraiment né de l'Esprit de Christ, on ne va pas te demander avant que tu t'engages dans l'église de Christ. Un bébé ne peut pas naître et vouloir passer toute sa vie dans son berceau. Le bébé est pressé de manger comme les parents, de suivre les parents à la clinique. Vous voyez, le bébé est pressé de suivre les adultes. Tu ne peux pas être né de nouveau et être heureux d'être tout le temps dans ton berceau. Tu ne peux pas être né de nouveau et être pressé de t'asseoir tout le temps là, ne rien foutre pour le Seigneur. Quand le fils d'un homme naît, il est pressé de pouvoir marcher comme l'homme, de faire ce que l'homme fait. Il n'est pas normal que le fils de l'esprit naisse et ne soit pas pressé de vivre la vie de l'esprit. Donc il n'est jamais né. Nous devons savoir qui nous sommes. Aussi longtemps que nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne sommes pas meilleurs qu'un esclave. L'héritier qui ne sait pas qu'il a un héritage, qui ne sait pas que son papa lui a laissé des milliards parce qu'il est illettré, il est enfant, ses hommes vont le maltraiter comme un domestique. Mais le jour où il grandit et il découvre ça, ça devient quelqu'un d'autre. Il exerce maintenant son autorité. C'est lui qui va chasser ses oncles de sa maison parce que maintenant, il est devenu un adulte. Beaucoup de chrétiens sont comme des héritiers de Dieu qui sont malmenés par Satan parce qu'ils ne savent même pas qui ils sont. Tu ne seras pas béni par Dieu parce que tu viens à l'église. Tu seras béni par Dieu parce que Christ se formera de mieux en mieux en toi et rayonnera de l'intérieur de toi. Jésus, qui représentait l'ange de l'Éternel devant Josué, a été clair. Josué a dit, est-ce que tu es venu combattre pour moi? Il a dit non. Les chrétiens viennent à l'église pour que Jésus combatte pour eux. Il a dit non. Si quelqu'un est là parce qu'il veut que Jésus règle ses problèmes, il va partir. Jésus dit non.
Nous l'avons dit à Wabo, Jésus est à soi, vieux, à Zor.
C'est pour ça que vous allez voir les femmes là. Elles passent de veille, aujourd'hui elles sont en veille de prière, demain elles sont chez le visionnaire chrétien céleste, après demain elles sont chez l'alpha, après elles sont chez le marabout, après demain elles sont chez le féticheur. Jésus n'est pas dans ça là, il n'est pas venu pour combattre toi. Ça, c'est de la prostitution spirituelle. C'est Dieu qui a envoyé Josué prendre Jéricho. Mais quand ils étaient devant le mur de Jéricho, l'ange de l'Éternel qui représentait Christ s'est présenté devant Josué. Il avait une épée à la main. En fait, c'est lui qui a détruit le mur de Jéricho, c'est pas Josué. Parce que Josué et les saints devaient marcher autour de la ville. En mettant l'arche de l'Éternel devant. Et il devait avoir aussi devant les trompettes de la louange. Ça veut dire quoi? Quand tu as un problème insurmontable, qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu te donne la victoire? Tu dois mettre l'arche devant. Tu dois mettre Dieu devant. La parole de Dieu doit être devant. Rien n'est plus important que ça. Si tu ne te soumets pas, si tu ne suis pas la parole de Dieu, il n'y a pas de victoire pour toi. Tu vas mourir dans le désert comme une génération de juifs. Dieu les avait sortis d'Égypte, mais les avait laissés mourir dans le désert. Dieu peut te sortir du monde, t'amener dans l'église, mais il va te laisser mourir là. Si tu ne marches pas derrière sa parole. Parce que la parole est Dieu, Dieu est la parole. Marcher derrière l'âge, c'est marcher derrière la parole. Et marcher sept fois autour de la ville, c'est marcher sept fois derrière la parole. C'était le signe de la perfection. Donc marcher derrière l'arche et faire le tour de la ville sept fois, ça veut dire que par rapport à ton problème, tu dois obéir parfaitement à la parole de Dieu pendant que tu attends que le mur s'écroule. Si c'est dans ton couple, tu dois vérifier si tu es humble. Est-ce que tu es patiente? Est-ce que tu es une femme curieuse? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu aimes ton épouse comme Christ aime l'église? Est-ce que tu es là à la colère? Est-ce que tu es là à parler? Est-ce que tu es prompt à écouter? Est-ce que tu correspond à la femme de Proverbe 31? Il faut marcher derrière tout ça avec perfection d'abord. Quand tu vas marcher avec tout ça par perfection, en louant Dieu, les trompettes, c'est la louange. Je te remercie, Seigneur, toutes tes grâces. Tout concours bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne murmures pas. Dieu a dit gardez le silence. C'est pas que mon mari est parti. Ah, c'est un bandit. Ferme ma bouche. Parce que tout ce que tu dis est une prophétie. Ferme la bouche. Ne parle pas de tes problèmes. Si tu veux parler à tout prix, parle à Dieu ou parle à tes problèmes. Vous ordonne cette tempête de problèmes. Sors au nom de Jésus. Cette tempête de problèmes. Bouge au nom de Jésus. Parle au problème et parle à Dieu. Mais ne parle jamais de tes problèmes. Quand tu fais tout ça, quand tu as suivi la parole avec perfection, la parole qui entoure ton problème, en ayant Dieu avec souveraineté devant, et en état dans un esprit de louange, le mur va se couler tout seul le septième jour. Dès que la perfection sera venue dans l'obéissance, le mur se courra tout seul. C'est pour ça que Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Elle est plus puissante que tout. Mais au moment de faire ça, Christ se présente à Josué. Josué dit, ah mais si tu es venu pour nous sauver, Non, je ne suis pas venu sauver quelqu'un. Je suis venu prendre le commandement. Ça veut dire quoi? Toi, tu viens. Tu es là. Et tu dis, Jésus, tu vas me sauver? Il dit, non. Je ne suis pas venu te sauver. Je suis venu commander. Ça veut dire quoi? Si tu acceptes que je te commande, comme c'est moi qui commande, toi et moi nous allons gagner. Si tu n'acceptes pas que je commande, je vais te détruire. Il n'y a que deux possibilités. Je commande et je bénis. Je ne commande pas, je détruis. C'est pour ça que les gens viennent à l'église et ne sont pas dans leur vie. Ils ont oublié que Jésus a dit à Josué, il n'est pas venu pour bénir. Et dans Luc 9, on dit, il les a menacés. Dieu vous menace. N'allez pas dire aux païens qu'ils vont être sauvés sans être. Pour sortir d'Égypte, pour être libéré des problèmes, il devait faire la Pâque. La Pâque nous dit qu'il faut manger le mouton, l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Or Jésus, c'est la parole. Donc l'agneau est Jésus, Jésus est la parole. Donc l'agneau est la parole. Nous sommes d'accord? Il devait manger l'agneau en totalité, y compris ses intestins, avec des herbes amères. Si il ne mangeait pas l'agneau en totalité, avec des herbes amères, il ne sortirait pas d'Égypte. Si tu ne manges pas la totalité de la parole de Dieu, avec même ses intestins, moi par exemple, je n'aime pas les intestins, mais ce que tu n'aimes pas dans la parole de Dieu là, tu dois le manger totalement avec des herbes amères, parce que c'est une viande qui n'est pas très douce, ça a mauvais goût, mais c'est comme la nivakine, c'est ça qui te guérit. Si tu ne veux pas manger parce que l'odeur ne te plaît pas, parce que le goût ne te plaît pas, parce que c'est trop amer, tu restes chez Pharaon, il va te chicoter jusqu'à ta mort. Les problèmes vont te maltraiter. La maladie va te détruire. Les sorciers vont faire de toi un calamité. Ils vont faire.
Aïe aïe aïe.
Les soucis te rendent au quotidien. Tout ce que tu fais sera un échec. La maladie sera sur toi, la mort sera sur toi, la pauvreté sera sur toi. C'est ça qui arrive. Quand on ne veut pas manger l'agneau, on reste en esclavage. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Il faut annoncer toute la bonne nouvelle. Il ne faut pas couper la bonne nouvelle à l'ancienne. Elle est totale ou elle ne l'est pas. Si l'église était faite de personnes qui ont reçu ça en naissance de nouveau, elle ne serait pas comme ça. Elle serait puissante. Elle aurait la vie de Dieu. Lisons Isaïe 32. Verset 15. Un jour, le Seigneur répandra sur nous son esprit. Un jour, le Seigneur répandra sur nous son esprit. Esaïe, c'est depuis l'Ancien Testament. Donc, c'est des siècles avant Jésus que le Seigneur avait déjà prophétisé. Alors, les terres incultes deviendront un verger. Et le verger deviendra une forêt. Le droit sera chez lui dans cette terre aujourd'hui inculte. Et la justice régnera dans le verger. La justice produira la paix. Elle créera pour toujours tranquillité et sécurité. Son peuple habitera une oasis de paix. Il vivra en sécurité, au repos et sans souci. Ésaïe 32 du verset 15 au verset 18. C'est ça qui s'est passé à la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, comme il avait promis dans Ésaïe 32, le Seigneur a répandu sur nous son esprit. son esprit pour que nous naissions comme ses enfants. Quand il l'a fait, et parce qu'il l'a fait, les terres qui étaient stériles, les terres qui ne pouvaient rien produire, sont devenues des vergers. Un verger, c'est une terre sur laquelle il y a plein d'arbres fruitiers avec beaucoup de fruits. Cela doit nous faire repenser à Ézéchiel, je crois, 37 ou 47, là où on parle du cours d'eau qui sort du temple. On dit que du temple, donc de là où le Seigneur est, il y avait un brin d'eau qui est parti. Au début, c'était tout petit. Quand le Saint-Esprit vient en vous, ça part tout petit de chez Dieu. Mais à mesure que ce cours d'eau progressait, il s'élargissait, il se rendait de plus en plus profond, allant jusqu'à devenir un fleuve. De la même manière, le Saint-Esprit. Je dis que si quelqu'un est avec lui, des sources d'eau vive couleront de son sein. Tu vas voir que plus tu suis le Seigneur, plus tu marches avec le Saint-Esprit, plus l'onction va grandir. L'onction va s'approfondir. À un moment, l'eau ne venait qu'au pied d'Ézéchiel. À un moment, c'est venu à ses genoux. Plus il allait loin, plus ça venait à sa hanche. Plus il allait encore loin, plus ça venait à ses épaules. Et il a dit quelque chose. Quand l'eau est à un certain niveau, par exemple, au genou, tu peux encore marcher. Quand l'eau est très très basse, tu marches facilement. Plus l'eau monte, plus tu marches, mais difficilement. Quand l'eau arrive à un certain niveau, tu ne peux plus marcher. Si tu veux te déplacer, et si tu ne veux pas mourir, tu dois nager. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en toi, tu es encore un homme. Tu marches encore par la chair. Tu te comportes encore comme un homme. Tu penses comme un homme. Tu parles comme un homme. Tu agis comme un homme. Mais en gardant le Saint-Esprit, à mesure qu'il monte en toi, à mesure qu'il te remplit, tu auras de plus en plus mal à marcher comme l'homme. Là où tu insultes les gens, tu ne pourras plus insulter les gens. Là où tu te fâchais, tu ne pourras plus te fâcher. Là où tu ne pardonnais plus, tu pourras pardonner. Donc tu auras de plus en plus mal à te comporter comme un homme charnel. Mais là où avant tu ne pouvais pas nager parce qu'il n'y a pas d'eau, quand l'eau monte maintenant, tu nages. Et quand tu sais nager, tu peux aller beaucoup plus vite avec repos et facilité. Si quelqu'un sait nager, vous allez voir que dans l'eau, on est plus à l'aise que sur le sol. Parce qu'à cause de la poussée d'Archimède, tu ne portes pas ton poids, tu es soutenu, tu flottes. Dans l'eau, tu peux te coucher comme ça, tu fais comme ça, tu ne fais aucun effort, tu flottes, tu ne coules pas. Sur l'eau, tu peux te déplacer dans le calme, le repos et la tranquillité. Quand le Saint-Esprit est là, tu n'as plus besoin de marcher, de faire des efforts. Tu glisses dans l'onction. C'est ça le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous dit ici dans Ésaïe. Et parce qu'on a vu qu'avec Ézéchiel à la fin, sur les bords de ce cours d'eau là, de cette onction du Saint-Esprit, il a commencé à avoir plein d'arbres. Des arbres qui portaient des fruits. Il y avait plein de poissons. Et les gens pouvaient pêcher. Et le Saint-Esprit nous disait là-bas que ces arbres étaient utiles non seulement pour leurs fruits, pour leurs feuilles. Progressivement, au début, c'est les feuilles qui sont utiles pour guérir. Ensuite, c'est les fruits qui sont utiles pour manger. Quand vous arrivez au Seigneur, vous avez d'abord des feuilles. On ne peut pas manger les feuilles. Mais les feuilles guérissent. Les feuilles donnent de l'ombre. Quand vous venez avec le Saint-Esprit, vous allez d'abord avoir la guérison de votre cœur, la guérison de vos soucis. Vous avez la paix. Et vous vous sentez protégé. Protégé du monde. Protégé du diable. Ça, c'est l'effet d'un arbre qui a des feuilles qui n'a pas encore de fruits. Ce n'est pas le même jour que vous allez manger les fruits. C'est bien après les feuilles que l'arbre va donner des fruits. Et là, maintenant, on peut manger les fruits. Et quand on a mangé les fruits, On peut semer le noyau des fruits pour engendrer d'autres arbres. C'est pareil dans la vie du chrétien. Quand vous suivez le Saint-Esprit, vous devez d'abord avoir l'ombrage et la sécurité. La Bible, celui qui est à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant et va être guéri par les feuilles. Le monde viendra se reposer sous son ombre. Après, il y aura des fruits qui sont la bénédiction. Et il va engendrer de nouveaux arbres, des terrains de justice parce qu'il les semera. Donc Dieu nous dit ici que quand le Seigneur viendra sur nous, les gens qui ne portaient aucun fruit vont devenir des vergers avec plein de fruits. Ta vie qui ne donnait aucun résultat. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu vas devenir un endroit où il y a tellement de résultats. Les églises qui n'avaient aucun fruit, aucun signe du Saint-Esprit, des églises mortes, se réveilleront. Chaque personne sera un arbre qui portera beaucoup de fruits. Mais il nous dit quoi? Il dit les terres et que deviendront vergers. Et le verger deviendra une forêt. Ça veut dire que si tu étais encore mort, quand le Saint-Esprit vient, tu nais de nouveau. Si tu étais un endroit aride et stérile, quand le Saint-Esprit vient, tu deviendras un verger. Mais si tu es déjà un verger, si tu as déjà le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient à la Pentecôte, le verger doit devenir plus dense et plus grand. Le verger, c'est sur un carré. La forêt, c'est sur des milliers d'hectares. Donc, le Saint-Esprit non seulement peut créer un verger là où il y a de la stérilité, mais il peut transformer le verger en forêt. Je voudrais que pour nous, au centre de Jésus, pour réussir, le verger devienne maintenant une forêt au nom de Jésus-Christ. Le droit sera chez lui dans cette terre aujourd'hui inculte. Le droit, c'est-à-dire le fait d'obéir à Dieu, la justice, doit se sentir chez elle dans ce nouveau territoire. C'est-à-dire que l'obéissance à Dieu doit devenir la règle, le quotidien de ceux qui sont sur ce territoire béni. Il ne peut pas y avoir le Saint-Esprit et que les gens n'arrivent pas à obéir à Dieu. La justice ainsi retrouvée produira la paix. Elle créera pour toujours tranquillité et sécurité. Vous ne pouvez pas avoir la paix, vous ne serez jamais tranquille, vous ne vous sentirez jamais en sécurité sans obéir à Dieu. C'est l'obéissance à Dieu qui crée la paix. Tes inquiétudes, mon propriété va venir, je vais mourir, mon avenir. Ces inquiétudes viennent quand tu n'obéis pas à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, tu reçois la paix. Même si le problème n'est pas réglé, tu reçois d'abord la paix. Et tu n'es pas agité, tu peux être tranquille. Et tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu es en sécurité. C'est l'obéissance qui crée ça. Son peuple habitera une oasis de paix. Il vivra en sécurité, au repos et sans souci. Quand nous obéissons à Dieu, c'est alors que nous créons la paix. C'est alors que nous pouvons être tranquilles. C'est alors que nous pouvons être en sécurité. Et c'est alors que nous pouvons porter les fruits que Dieu attend de nous faire porter. Il n'y a pas de négociation possible. Vous découvrirez la vérité. et la vérité vous affranchira. On ne dit pas la vérité aux chrétiens. Ils viennent du monde, mais on n'enlève pas le monde d'eux. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils sont sortis du monde, mais on n'a pas sorti le monde d'eux. Regardez au niveau de la sortie d'Égypte. En frappant Pharaon et les premiers-nés d'Égypte, Dieu a permis que Pharaon, donc le monde, libère l'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Mais l'Égypte était toujours en eux. La rébellion était toujours en eux. Les murmures étaient toujours en eux. La peur était toujours en eux. L'incrédulité était toujours en eux. Dieu les avait entrés dans le désert. Et dans le désert, Dieu, tout ce que Dieu a fait, l'amertume était toujours en eux. Tout ce que Dieu a fait dans le désert consistait à faire maintenant de sortir l'Égypte d'eux. Vous allez voir, à chaque étape, il disait à Moïse, tu aurais dû nous laisser en Égypte. Parce qu'ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte était toujours en eux. Beaucoup de gens sont sortis du monde, mais le monde est toujours en eux. Ils doivent suivre Christ, ils doivent mourir en eux-mêmes tous les jours pour que progressivement le monde sorte d'eux. Mais tu as beau sortir d'Égypte, tu ne rentreras jamais là où coule le lait, le miel, dans la bénédiction, si le monde n'est pas sorti de toi. Dieu a ouvert la mer rouge pour qu'ils rentrent dans le désert. Une génération n'a jamais voulu sortir l'Égypte d'eux. Ils sont tous morts. Sur 2 millions de personnes, 2 millions sont morts sauf 2, Josué et Caleb. Ça ne fait même pas 1%. Si la vérité n'est pas enseignée, c'est comme ça que tous ceux qui s'appellent chrétiens aujourd'hui vont aller en enfer alors que Dieu les a sortis du monde. Il faut qu'on dise des choses comme elles sont. C'est là où Jésus dit, ils diront ce jour, nous étions avec toi, nous avons profité de ton nom. Je vous dirai, pas je ne vous connais plus. Je ne vous ai jamais connu. Lisez. C'est pour ça que dans Luc 10, quand les disciples sont venus, ils ont dit, Jésus a dit, je vois Satan tomber comme un éclair. Et les disciples ont dit, les démons nous sont soumis. Donc on voit là que les disciples avaient été efficaces dans le mystère de chasser le diable. Qu'est-ce que Jésus leur a immédiatement dit? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Ça veut dire que ce n'est pas évident. Tu peux prophétiser, faire des miracles, guérir des malades. Ça ne veut pas dire que tu es au ciel. Réjouis-toi d'être né de nouveau. De payer à Dieu. Pas la foutaise. Les dons sont donnés pour l'utilité commune. Si Dieu te donne le don de faire des miracles, ce n'est pas que tu es bon. L'apôtre Satan est mauvais, mais il avait aussi plein de dons de Dieu que Dieu n'a pas repris. C'est pour ça qu'il fait du mal.
Lord, they were also man of God. Fire!
Je t'attrape, je te localise et je te regarde. Et puis, je te dis, move. Là, alors, move ton cacao. Les couilles, nous avons fait la vie.
Nous allons finir en lisant Jean 17 à partir de
ceci.
Écoutez bien ce que Jésus dit dans l'une de ses dernières prières au Père. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Et, c'est-à-dire, c'est une conjonction de coordination, il faut que les deux soient unis.
Et,
ils ont obéi à ta parole. Maintenant, tout ce que tu m'as donné, ils savent que cela vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils savent vraiment que je suis venu de toi. Et ils croient que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, c'est Jésus qui parle. Mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Oui, ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. De même, ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire apparaît en eux. Ça veut dire quoi? Les gens qui sont concernés par la bénédiction, les gens qui peuvent recevoir dans leur vie tout ce qui est à Dieu, parce qu'eux sont à Jésus. Jésus dit, si tu m'appartiens, si tu m'as donné ta vie, si tu es mon esclave, comme j'appartiens à Dieu, si toi tu m'appartiens, alors nous appartenons à Dieu. Si nous appartenons à Dieu, tout ce qui est à Dieu est à nous. Donc, pour que tout ce qui est à Dieu soit à toi, que ces promesses s'accomplissent dans ta vie, que sa puissance s'accomplisse dans ta vie, il pose des conditions. Les gens qui ont connu son nom en tant que Christ, les gens qui ont été appelés par Dieu, qui sont sortis du monde, les gens qui ont obéi à la parole, les gens qui ont cru ce que Jésus disait, les gens qui ont vraiment cru qu'il vient de Dieu, les gens qui ont accepté de lui obéir. Il dit, c'est si vous obéissez à mes commandements qu'on saura que vous êtes à moi. Donc vous pourrez être à moi et à Dieu. Et donc ce qui est à Dieu sera à vous. Jésus dit que il ne prie pas pour le monde. Il prie pour ceux qui sont à lui. Il ne prie pour ceux qui fréquentent des églises. Il prie pour ceux qui sont l'église. Un chrétien ne va pas à l'église. Un chrétien est l'église. Quand Jésus dit qu'il viendra chercher une église sainte, il ne veut pas chercher les bâtiments de l'église. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui sont morts, mais qui ne vivent que par l'Esprit de Christ, par la parole de Dieu. C'est la Pentecôte. C'est le moment pour toi, plus que jamais, de croire. Parce que dès que tu as cru du cœur, le Saint-Esprit t'a convaincu. Donc il est en toi. Tu vas le confesser de la bouche. Donc tu appartiens à Dieu. Si tu m'as écouté ce soir et que tu as cru, le Saint-Esprit est en toi. Il va t'utiliser. Il va te donner une vraie vie. Mais si tu ne veux pas obéir, c'est tant pis pour toi. Venir à l'église ne te servira à rien. Moi, je t'autorise de ne plus venir ici. Hein, parce que la vérité, moi, je la dirai toujours. C'est le prix à payer pour que tu sois un géant de la foi. Pour régler tes problèmes. Mais ça, là, c'est petit. Ça, là, c'est petit encore. Mais pour que Dieu t'utilise pour régler les problèmes des autres. On ne devient pas chrétien simplement pour régler nos problèmes. On devient chrétien pour être la lumière du monde. C'est à nous qui devons éclairer le monde. Les rois doivent marcher à notre lumière. C'est à nous qui devons saluer le monde. Là où le monde n'a plus de goût, c'est nous qui devons mettre le goût. Tu ne peux pas devenir sans vivant comme tu veux. Que le Saint-Esprit te remplisse et que tu vives cela. Au nom de Christ Jésus. Amen.
Vous venez de suivre Lève-toi et prie, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, 6 à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny. Diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. Vous êtes bienvenue à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h. Nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu. La meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Dieu vous bénisse.